Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, le paddock RMC va débriefer un Grand Prix exceptionnel. Comme toujours, j'ai l'impression au Brésil, à Interlagos, c'était encore un week-end fou, un week-end avec une course sprint. Il s'est passé énormément de choses lors de cette sprint race, lors du Grand Prix bien évidemment. Au championnat du monde, il y a une incidence terrible sur les résultats de ce Grand Prix du Brésil. Peut-être même un énorme tournant au championnat du monde, puisque Lando Norris s'est imposé. On y reviendra plus tard, mais il a surtout creuser l'écart avec la concurrence et on a eu un Verstappen. En fait, maintenant les superlatifs avec Verstappen, je sais même pas si on peut en utiliser, je sais même pas s'ils existent, tellement Max Verstappen est capable de faire des choses exceptionnelles. On le sentait un petit peu venir quand même après des qualifs terribles pour lui. On se disait bien que Verstappen allait faire une course totalement folle et il a réussi un coup magnifique. Les ingénieurs de notre paddock RMC, Jean-Luc Roy n'est pas from Miami, il est from Paris en studio. Salut mon Jean-Luc.
Eh ben salut mon Nico, salut à tous.
Tu vois, toi tu cibles tes grands prix, Jean-Luc. C'est là qu'on voit l'expertise du gars.
C'est un métier.
Tu rentres en France, à chaque fois on a une course de zinzin.
Bah oui, bon, au Brésil, si tu veux, c'est quand même pas très difficile de penser que ça va être mouvementé. L'histoire en parle encore l'an dernier. Non, bah tu cherchais un qualificatif, je crois que je l'ai trouvé. Ayrtonien.
Ayrtonien. Ah, Ayrtonien, c'est très bien.
D'accord.
Ah oui, complètement. Ta petite note de ce Grand Prix du Brésil, Jean-Luc ?
12,5, j'ai fait léger. Non, 4,5, bien
ouais,
pesé.
Sur 5.
Bien pesé.
Séraphin Bette est avec toi, Jean-Luc, aujourd'hui. Salut Séraphin.
Salut à tous les gars. Ouais, moi je mets
Séraphin, un
beau 4 sur 5 à ce Grand Prix.
Ouais, on s'est régalé.
Sur le week-end complet d'ailleurs, beaucoup de choses.
Ouais.
Plein de choses à dire, plein de choses à débriefer. Je vous rappelle que nous on note les grands prix, mais que vous notez le paddock RMC sur les plateformes de téléchargement sur 5 étoiles. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner si vous voulez voir tous les extraits du paddock en vidéo sur la page Instagram RMC Formule 1. Voilà, et puis surtout commenter, venez interagir avec nous. On vous lit, on vous écoute et on apprend plein de choses à chaque fois dans vos messages. Les gars, c'est parti pour ce Grand Prix du Brésil.
Lapsus révélateur, mon Nico, du plaisir, ouais. Grand Prix du plaisir. Tu as raison, ça c'est très bon.
D'ailleurs, c'est le Grand Prix du
Brésil. C'était un vrai.
On ne dit plus d'ailleurs maintenant le Grand Prix du Brésil.
Oui,
c'est vrai, tu as raison.
São Paulo, c'est vrai. São Paulo.
São Paulo.
Ouais, c'est vrai.
Mais bon, Grand Prix du Brésil, quand même, pour nous, on va le faire comme ça. Victoire de Lando Norris, on le disait, week-end parfait pour lui. Il a remporté la course sprint, il a remporté le Grand Prix. Lors du Grand Prix, il s'impose devant Andrea Kimi Antonelli. Très jolie deuxième, meilleure performance de sa carrière. Et Max Verstappen sur le podium. Là, si vous n'avez pas suivi le week-end, vous vous dites, oui, bah Verstappen troisième, c'est pas dingue. Sauf que Verstappen est parti des stands. On y reviendra avec les ingénieurs. George Russell quatrième. Oscar Piastri, nouvelle déception. Nouveau week-end très compliqué pour le pilote McLaren. Cinquième. Oliver Berman continue d'enchaîner les superbes perfs avec les 8 points de la 6ème place. Liam Lawson 7ème, Isaac Hadjar partait 5ème sur la grille, il termine 8ème, Nico Hülkenberg 9ème et Pierre Gasly prend le point de la 10ème position. On va y revenir bien évidemment parce que bon, faut en parler quand même. Il était content, Pierre. 4 mois qu'il n'était plus dans les points. Bam.
Il y a de quoi. Il y a de
marque.
Quoi.
2 points d'ailleurs.
Esteban Ocon, 12e. Et l'autre enseignement fort de ce Grand Prix, c'est la débâcle des Ferrari qui n'ont pas terminé cette course au championnat constructeur. Du coup, vous imaginez bien que pour Ferrari, cata.
Pas sur la
Scuderia
tête. Pas sur la tête.
Quatrième désormais. Mercedes creuse vraiment l'écart. Hein, 398 points. 366 points pour Red Bull. Qui a 22 points de Mercedes et donc la Scuderia 362 points. Voilà, peut-être un écart déjà rédhibitoire pour cette deuxième place du classement des constructeurs et au classement des pilotes. Lando Norris a creusé l'écart, je vous le disais, il a 24 points d'avance sur Oscar Piastri. Il y a un mois, Piastri avait 22 points d'avance, désormais il en a 24 de retard et Max Verstappen est loin, 49 points, mais Max est toujours là, Jean-Luc. Parce que pourquoi on dit Max est toujours là ? Parce que Verstappen, il a vécu pour la première fois depuis très 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 longtemps des qualifs extrêmement difficiles et il nous a sorti une course d'anthologie.
Alors effectivement, mon Nico, il faut remonter très très loin, parce que éliminer en Q1, c'est la Russie 2021, ça à peu près tout le monde l'a trouvé. Après, si on veut éliminer sans que ce soit un problème mécanique, rédhibitoire, etc., pas totalement imputable au pilote, 2017, et on peut même remonter jusqu'à 2016 ou 2015 pour avoir une élimination directe comme ça, c'est-à-dire manque de performance, pour la faire simple, c'est-à-dire pas de pénalité, pas de problème technique, pas de changement, pas de rien, donc il faut remonter au début de sa carrière de pilote de Formule 1. Donc c'est pour ça d'ailleurs, pas l'humiliation, mais la déception terrible qu'il avait, le visage qu'il avait. Moi, tu sais, je crois beaucoup au body language, comme disent nos amis britanniques ou américains, l'attitude et le regard. Et c'est pour ça, on va en venir au pauvre, maintenant je le plains déjà, au pauvre Piastri. Mais Verstappen, là, il était à la fois en furie, parce qu'il n'a pas compris comment sa monoplace était à ce point inefficace. Bon, elle n'était pas terrible, on l'avait bien vu en sprint, mais il avait sauvé globalement les meubles. Alors il disait bien, je ne peux pas revenir sur les Mercedes devant. Et puis on a fait des changements radicaux, Laurent Mekies l'a dit aussi, et puis lui aussi, il fallait sortir de là. Donc on a fait une tentative pour les qualifs, elle s'est avérée totalement désastreuse, puisqu'on l'a bien vu aussi, il fallait voir comment il se battait avec son volant pour essayer de maintenir la monoplace sur la piste.
Il se conduisait, il a même dit. Hein.
Exactement, il ne savait plus comment s'en servir. Alors si lui n'arrive plus à servir d'une Formule 1, on peut être inquiet. Alors on a vu venir le coup, et puis malheureusement le coup près est tombé. Là, je crois qu'il était carreau debout sur le coup. Et ils ont bien réagi comme toujours. Enfin, je ne vais pas tenir trop longtemps le crachoir là tout de suite, mais ils ont bien réagi chez Red Bull comme toujours. Ils ont dit on reprend tout à zéro, on prend les pénalités, mais quand on est 16, partir des stands, la preuve. Et surtout quand on a l'atout majeur entre le volant et le moteur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand vous avez là, au milieu, l'élément moteur le plus important, bah, tous les espoirs sont permis.
C'est clair. Séraphin, il y a eu un boulot des ingénieurs là, Jean-Luc en a parlé, entre le samedi et quoi, en 24 heures quoi, un delta de 24 heures, ils ont fait venir des pièces en urgence, enfin ça a été un boulot de titan et un pari pris, parce que voilà, Red Bull a fait le choix de partir des stands pour modifier des pièces, un pari risqué mais ultra payant le dimanche.
Et oui, hein, c'est quand même son 7e podium consécutif aussi, c'est important de le dire. On ne s'attendait pas effectivement avant le début de la course de le voir monter sur cette 3e marche. Mais aussi, c'est un.
Ah, mais alors là, attends, je te coupe. Parce que moi, j'ai écouté mon Jean-Luc hier dans les grandes gueules du sport. Oui. Et il disait, Jean-Luc, attention. Et il disait, attention, avec Verstappen, on sait que tout est possible. Alors, je ne vais pas dire qu'on l'attendait forcément sur le podium. Par contre, Séraphin, on s'attendait quand même tous à voir Max déchaîner.
Une remontée.
Bah ouais.
En fait, mais quand on regarde le rythme de course, je ne sais pas si vous avez vu. Il est vraiment dans le temps de Lando Norris. Hein.
Ah, oui,
en termes de rythme de course, il était aussi performant qu'une McLaren. Et on rappelle aussi qu'il a eu une crevaison lente qui était
suspectée. C'est ça qui est incroyable, on ne savait pas.
Il s'arrête au début du Grand Prix, c'était au 7e tour, alors qu'il partait en pneus durs. Et ensuite, il fait une remontée jusqu'à effectivement batailler avec quand même Andrea Kimi Antonelli sur les deux derniers tours. C'est, encore une fois, on en a parlé beaucoup cette saison de ce qu'il a fait avec sa monoplace tout au long de la saison. Mais encore une fois, il montre à quel point il est au-dessus des autres. Et évidemment, et Jean-Luc l'a dit, on peut saluer aussi le travail derrière des ingénieurs pour changer tout le bloc moteur, les batteries sur la voiture. Certainement que ça a dû jouer aussi, hein, effectivement, d'avoir un nouveau moteur. Mais effectivement, la course qu'il fait, il nous a offert des dépassements majestueux. Donc on peut que tirer son chapeau et saluer cette performance.
Et alors, un mot de la part de Tristan, hein, vous le savez, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qu'on salue. Donc il dit, n'hésitez pas à rappeler cette stat de Max, 17e podium depuis une place différente. Alors c'est vrai. Fait la liste, hein, 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e. Il y a un petit trou là, puis après 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 20e. Et depuis la voie des stands, bah, je crois que tout est dit. Merci, au revoir et merci d'avoir été avec nous. Non, mais c'est fabuleux, quoi. C'est, je te dis, oui, moi, sincèrement, je crois qu'il faut faire référence à Ayrton Senna pour trouver un pilote aussi flamboyant. Déjà, parce qu'il a tout. Il a la performance, il a la mise au point, il a la niaque, il a la capacité à dépasser, parce qu'il faut le faire hein, quand même. Là, on perd pas de temps, même si lui-même concédait qu'il avait perdu un tout petit peu de temps sur certains dans les trains de DRS, parce que c'est pas un magicien non plus. Hein. Non, c'est ce qu'il a fait, c'est fabuleux. Et c'est tellement enthousiasmant de voir des Grands Prix de Formule 1 avec un type comme ça. Moi, je me répète, hein, on va parler de bravo à Lando, mais ça nous a pas fait grimper au rideau, alors que Max, il nous a fait grimper au rideau.
Non mais de toute manière, il y a un symbole, c'est qu'on ouvre ce podcast en parlant de la performance de Max Verstappen. Et Lando Norris a peut-être plié le championnat du monde, peut-être, parce qu'il fait un week-end de monstrueux où il prend 33 points sur le week-end. Mais ce qui marque les esprits, c'est Verstappen. Et on en est, Jean-Luc, à regarder les courses de Formule 1 cette saison pour Verstappen, parce qu'il a peut-être pas la meilleure voiture, même si depuis Zandvoort, on sait que ça s'est rééquilibré, mais qu'à chaque fois, il arrive à nous transmettre des émotions.
Mais c'est ça, c'est un phénomène absolu. C'est-à-dire que, un peu, Marc Marquez, vous savez que j'aime beaucoup la moto aussi, je sais que vous la suivez également. Marc Marquez, quand il est là, il magnétise un Grand Prix, parce que c'est lui le talent absolu, c'est lui la perle. Là, bon, il est blessé, vous le savez, il ne fait pas la fin de saison. Je trouve qu'il manque quelque chose. Et si Verstappen n'était pas là, on l'a dit et redit, imaginez une seconde. Non, n'imaginez pas, on se fait du mal. Non, mais c'est pas faire offense au talent des autres. Hein. En l'occurrence, à Lando Norris, et on va lui rendre hommage comme il convient, à Kimi Antonelli, là, qui a vraiment, alors là, moi je dis que c'est plus fort que le Canada, là, ce qu'il a fait. Donc là, il a mûri, en plus, il a dominé Russell, et Russell était un tout petit peu perdu. Donc ça, c'est encore plus fort. Toujours, la référence, c'est l'équipier, avec la même voiture, dans la même équipe. Donc bref, ce Max, moi, pourvu que ça dure jusqu'au bout, alors effectivement, on va en venir à l'analyse du championnat, mon Nico, et effectivement, là, il a pris une option.
Il a pris une belle option. 49 points d'écart, hein, quand même, avec Lando Norris.
Verstappen est loin, mais avec Max, c'est ça qui est dingue, c'est que, et Norris le disait en conférence de presse après le Grand Prix, il disait, quand t'as Verstappen un peu dans les échappements, même s'il a 49 points à 3 courses de la fin, tu dis jamais que c'est terminé. Et c'est vraiment cette sensation-là. On va l'écouter, Max Verstappen, au micro de Canal+, le diffuseur, après cette troisième place.
Ouais, c'est une très, très forte race, je pense.
Ça a été une course très, très solide, même avec la crevaison. On a dû repasser au stand pour changer les pneus et finir seulement à 10 ou 11 secondes du vainqueur. Ça montre qu'on a fait une course vraiment super, super solide. J'ai aimé cette course, bien plus que le reste du week-end ici d'ailleurs. J'ai fait de belles manœuvres, de beaux dépassements, j'étais dans la bataille pour la deuxième place.
Very good day, oui, c'est le cas de le dire. C'est ce qu'on appelle un euphémisme là.
Et surtout qu'effectivement, il le dit lui-même, et quand on voit son attitude il y a 24 heures avant, et là, de passer vraiment de dernier à, pas premier, mais en tout cas, accrocher un podium, on remet aussi en contexte, c'est l'abandon évidemment de Charles Leclerc, qui peut-être
aurait situé. Ah, il aurait été dans le combat,
pas dans,
c'est évident,
dans le podium. Oui. Mais tu l'as dit, Jean-Luc, par exemple, doubler George Russell, quand même, une Mercedes qui, aussi, qui était très compétitive sur ce week-end, il fallait le faire, et il n'y a que les très grands comme Max Verstappen qui sont capables de faire de telles courses.
Oui, et puis on a modifié la stratégie, justement. C'est ça qui est remarquable avec Red Bull, c'est qu'ils ont des stratégies adaptables. Ils sont capables, effectivement, à un moment, puisque là, cette crevaison n'était pas... Moi, j'ai été surpris hein, quand il nous a annoncé après qu'il avait une crevaison lente, parce que et comme il était parti, effectivement, avec des pneus durs, le voir s'arrêter... Bon, il y avait l'opportunité, évidemment, du virtuel safety car à ce moment-là, hein, puisqu'on a eu le safety car d'abord et le virtuel après, mais donc c'était un arrêt, pas gratuit, mais un arrêt à moitié coût. Donc, il y avait certainement moyen, là, de jouer, mais on l'a joué magnifiquement aussi, comme l'an dernier d'ailleurs, dans ce Grand Prix à rebondissement, chez Red Bull, on avait été très opportuniste. Hein.
Jean-Luc, il y a quand même un truc, c'est que Red Bull est en train de revenir ce monstre qu'on a pu connaître par le passé, parce qu'au-delà des perfs de Verstappen qui termine à 11 secondes de Norris avec un arrêt au stand supplémentaire, là, il y a tout le travail collectif de l'écurie pour en arriver à ce résultat-là qui est quand même fabuleux. Dans le développement, on sait qu'en plus sur des week-ends sprint, t'as pas tant de développement pour la voiture. Ce qu'ils ont réussi à faire là pour permettre à Verstappen d'avoir ces réglages-là, là aussi c'est très fort. Hein.
Ah, c'est remarquable. De toute façon, il le dit aussi, hein, Max, on ne fait rien tout seul, surtout en sport mécanique et particulièrement en Formule 1, où il n'oublie jamais, là, c'est pas de la flagornerie, des fois c'est un petit peu agaçant d'entendre dire « Oh, merci à l'équipe tout le temps ». Bon, il le pense, les pilotes, bien sûr, mais je crois que là, c'est un effort d'équipe, effectivement, absolu, et surtout un rattrapage incroyable, parce qu'ils étaient largués, quoi, il faut bien le dire clairement, ils étaient à peu près nulle part le vendredi. Alors on se dit toujours, oui, bah le vendredi, ils n'ont pas poussé, ils n'ont pas essayé vraiment de faire un temps sur un tour, ils ont des idées, ils savent où ils vont, etc. Et puis on a compris le samedi que c'était pas trop le cas, parce que bon, il part 6, il finit 4, il sauve les meubles, on va dire, mais c'est une course moyennasse, dirait Vincent. Et puis là, on rebondit magnifiquement après des qualifs désastreuses. C'est encore plus fort, moi, je trouve, voilà.
Ouais. C'est encore plus fort. Bon, les gars, on va quand même parler un petit peu de Lando Norris qui a fait, et de McLaren globalement, oui. Parce que maintenant, on ne dissocie plus Oscar Piastri de Lando Norris, Séraphin. Franchement, on était les premiers, nous, des fois, dans le paddock, à noter que Lando Norris pouvait ne pas avoir l'étoffe d'un champion du monde dans le langage corporel, dans des prises de position, dans son agressivité sur la piste. Et au moment le plus important de la saison, là depuis 2, 3, 4 courses, Lando Norris est imperturbable, impeccable, et il fait un week-end sans faute, Séraphin.
Tout à fait, c'est comme ça. Pour moi, c'est son deuxième week-end, là, encore une fois, parfait. C'est-à-dire qu'il domine les qualifications, les courses, premier à chaque fois. Donc ça montre direct aussi, face à son coéquipier, que lui, il a le niveau. C'est quand même aussi sa septième victoire cette saison, comme Oscar Piastri. C'est important de le dire, ils sont tous les deux à cette victoire. Et cette course qui était très, très bien déroulée. Il y a eu aussi beaucoup de relances, finalement, déjà en sprint et aussi sur la course longue. Il faut quand même bien effectuer ces relances sous safety car ou sous virtual safety car.
T'avais une vraie pression à gérer toutes ces relances.
Il bien réalisé. Et aussi le départ, on n'oublie pas, il y avait Andrea Kimiantelli qui était en pneu tendre, lui en médium. Donc c'était aussi une crainte pour lui. Il a très très bien géré ce départ. Et ensuite, effectivement, le rythme aussi de sa voiture qui était excellent sur tout le week-end, sur ce qu'il a fait. Encore une fois, oui, je pense que Norris, maintenant, il montre depuis finalement ce qui n'était pas son fait, son abandon à Zandvoort, que depuis, à chaque week-end de Grand Prix, il marque plus de points de son coéquipier. Et donc, au niveau comptable, évidemment, il ne fait que grappiller des points. Encore une fois aussi, il bénéficie aussi de l'abandon quand même d'Oscar Piastri le samedi, qui lui fait avoir 8 points face à 0. Donc ça joue aussi beaucoup hein, pour un championnat. Et sur la globalité du week-end, on sent qu'il y a... il s'est épaissi et on peut maintenant effectivement le mettre à un piédestal en tant que pilote vraiment leader de cette écurie. Et moi, j'attendais une situation un peu différente d'Oscar Piastri. Il a montré des choses un peu plus positives, il s'est qualifié un petit peu mieux, mais on sent que le rythme n'est pas encore là. Il y a quand même 3 dixièmes de seconde aussi en qualification, c'est important de le dire, alors que c'était extrêmement serré. Oscar Piastri n'est pas encore revenu au rythme de Lando Norris. Donc je pense que s'il continue dans cette dynamique, il y a des chances effectivement qu'il puisse... aller le remporter et ça sera tout à son honneur.
Les gars, on peut est-ce qu'on peut le dire? Déjà, moi, je pense que le 8-0 en course sprint, ça l'a mis dans des dispositions psychologiques super favorables pour le Grand Prix, parce que t'as quand même moins de pression quand t'abordes le dimanche et que t'as pris 8 points le samedi par rapport à Piastri, Jean-Luc. Mais là, le trophée là, de champion du monde, il commence à le toucher, quoi. Il le touche peut-être pas, Lando Norris, mais en tout cas, il est plus qu'à 2-3 cm, non?
Oui, écoute, là, il a fait un pas en avant énorme, il faut être clair. Puis les écarts, quand même, c'est considérable. Hein. Dans l'ordre, on va prendre déjà sur son équipier. Bon, il était qu'à 1 point avant le week-end. Donc là, il le repousse à 24 points. C'est quand même absolument... Et voilà, c'est presque une victoire. Donc ça le met presque à l'abri pour le moment, et presque 2, bien sûr, pour Verstappen, 49. Presque 2 scores nuls, et les autres seraient à son niveau. Si jamais lui ne marquait pas 2 fois, Verstappen, à condition de gagner les 2 Grands Prix, hein, remonterait. Donc oui, il a fait un pas en avant considérable, là, il ne faut pas mentir. Il y a toujours du suspense, encore une fois, parce que c'est un sport mécanique, et que malheureusement, lui... l'a déjà éprouvé, cette déconvenue terrible d'avoir un moteur qui casse. On est en fin de saison, hein. Donc tout peut arriver. Ça peut être, il peut y avoir un élément mécanique quelconque qui lâche, parce qu'on, là, on les a quand même poussés à la limite. Et d'autant que, et lui, il avait dit après la sprint, il a été honnête aussi, et quand il a vu qu'Antonelli le poussait comme ça jusqu'au bout, Il a dit on n'a pas la domination qu'on avait, et je crois que c'est vrai, je crois que là aussi c'est pas du tout de la langue de bois. Il s'attendait à être peut-être plus tranquille devant, et comme tu l'as rappelé aussi Nico, et comme Séraphin vient de le dire aussi, il a pas été il a été dominateur, mais il a pas été dans un fauteuil, hein. Il a fallu qu'il s'en occupe, et moi aussi je suis d'accord avec vous, il a pris de l'étoffe et il n'a plus le même regard non plus. On sent que là il commence à y croire, voilà.
Bah moi j'ai l'impression que le tueur à sang-froid, voilà, ça, ouais. ça a changé de camp, quoi. C'est fou, c'est fou cette inversion quand même de dynamique. Alors on va écouter Lando Norris. Bah, on va écouter Lando Norris d'ailleurs, parce que notre confrère de Canal Plus lui pose la question justement sur cette incroyable dynamique qu'a Lando Norris. On l'écoute.
Well, like I always say every time, I don't believe in momentum, but it's been another great
weekend. Toujours, je crois pas au momentum, dynamique. Mais pour moi, c'est un nouveau très bon week-end. J'ai maximisé les séances, les pôles, la victoire, donc super heureux. C'était un bon week-end. La voiture et l'équipe ont fait du beau boulot. Je pense que pour le coup, j'ai fait du bon travail. Et quand ces deux choses sont en tête, on peut gagner, on peut être premier. Super heureux. Mais encore une fois, je rentre, je dors, j'oublie. Et je pense qu'à gagner la Las Vegas. Voilà, Lando Norris. Non mais c'est fou quand même cette inversion. J'ai du mal à me l'expliquer.
J'y reviens, hein, mon Nico, d'un mot. Ils l'ont cassé. Moi, ouais. J'ose le mot.
Tu maintiens.
Je maintiens. Ben, c'est ce que j'ai dit après Monza. Hein. Quand on fait payer à un pilote une erreur de l'équipe comme ça, parce qu'on a fait une erreur au stand, parce que l'autre a perdu 3 secondes de plus, et donc se retrouve, quand on lui dit « tu vas rendre ta place », et là, il n'y croyait pas, hein, Oscar. Vous vous rappelez, en course, il a dit « non mais vous êtes sûr, c'est vraiment ce que je dois faire ». Et puis il a attendu, bon, il a traîné un tout petit peu, puis comme c'est un bon garçon, et là, ils l'ont cassé. Là, il a compris que c'était pas pour lui, déjà, il l'a compris, il l'a senti, et puis je pense qu'on lui a dit, parce que tout le discours à la mort, moi ne pardonnez-moi, mais j'ai toujours pas les mots ni la langue dans ma poche, qu'on nous sert, c'est de la com, surtout de la part de Brown, évidemment, comme d'habitude. Stella, il est plus près du terrain, il est plus ennuyé par tout ça. Stella, il l'a dit en creux, comme je vous l'ai dit, je crois que c'était au Mexique, où il a dit, ah oui, bah, quand la piste est glissante, il est un peu moins bien, et puis il est jeune, hein, donc ça y est, c'est bon, son sort est réglé. On veut que ce soit Lando, et Lando le mérite. Hein. Je ne sais pas un titre au rabais du tout. C'est pas ce que je veux dire. Et il va terminer devant, mais on a cassé quand même Oscar. C'est ça que je ne sais pas si on va retrouver. Moi, je vais vous dire un truc. Allez, après j'arrête. Je pense que à la fin de la saison 2026, si jamais on ne permet pas à Oscar de jouer sa carte face à Lando, qui sera vraisemblablement champion du monde, il se barre. Voilà.
Je rejoins aussi cette.
C'est ce que j'allais vous demander, les gars. C'est qu'au bout d'un moment, quand on subit ça, déjà mentalement, on va voir comment Oscar Piastri, Séraphin, est capable de se relever d'une saison comme ça. Même en restant chez McLaren l'année prochaine. 2026 peut être très très difficile dans la digestion pour Oscar Piastri. Et puis après, comment tu veux continuer à t'inscrire dans un projet, dans une écurie qui potentiellement t'a fait subir ça?
C'est sûr. Après, lui, c'est quand même sa troisième saison. Donc, il apprend à chaque fois. Hein. Évidemment, on apprend de ses erreurs à chaque... Donc,
là, ouais, moi, mais c'est... ça, Séraphin, j'y crois pas. Moi, ça, les gars, j'y crois pas. En fait, première saison, deuxième, troisième saison, les mecs, c'est des tueurs. Ils veulent gagner. Mmh. Et si tu peux gagner, même si t'es là depuis 5 mois, mais en fait, ça ne peut pas marcher en sport, ça, ce truc du oui, t'es jeune, c'est pas pour toi cette année, ça sera pour toi dans 3 ans. Les mecs, en plus, ils sont pas fous. Si ça se trouve dans 3 ans, elle se représentera jamais, cette chance-là.
Et même l'an prochain, peut-être que les McLaren vont être à côté de la plaque. Déjà, ça commence comme ça. Donc, ça lui donnera d'autant plus de facilité à partir. Parce que je pense que Oscar, il y en a d'autres que nous qui ont repéré son talent, là. Hein. C'est clair que je dis bien, bon, l'an prochain, c'est trop tard, il va rester là, puis il a pas de raison non plus de quitter le navire. S'il a une voiture pour gagner, ça, c'est la condition. Première, comme Max, quand il a eu le sentiment qu'il pourrait avoir à nouveau une voiture pour gagner avec Red Bull en 2026, il a dit « je reste ». Voilà. Et c'est un sentiment pour le moment, parce qu'encore une fois, tout ce qu'on nous sert, ils ne savent rien. Vous avez vu, quand ils sont un peu honnêtes, les team managers et les ingénieurs, ils disent « on ne sait pas ce qui va se passer en 2026 ». Il y a trop de paramètres qui changent, tout change, c'est une révolution, peut-être plus importante que celle de 2014, donc les cartes vont être distribuées. Voilà. Donc pour en revenir à Oscar, il est brisé. Est-ce qu'il va se remettre complètement aussi de cet affront, je dirais? Parce qu'il a quand même été leader du championnat du monde depuis Bahreïn. C'est énorme.
En fait, les saisons sont aussi tellement longues, il fallait qu'effectivement, il domine toute la saison. Et là, on a vu une cassure. D'ailleurs, j'ai même calculé, par curiosité, les points entre Oscar Piastri et Lando Norris depuis le Grand Prix d'Italie. Donc, c'était assez récent. Norris a marqué 115 points et Oscar Piastri, 57. Juste
plus de la moitié.
Donc, la différence, elle est énorme. Et effectivement, sur la longueur, moi, j'en parlais un petit peu avant, quand on parlait avant du Grand Prix du Brésil ce week-end. Il y a toujours pas ce réveil ou cette nouvelle course référence, parce qu'il nous l'a prouvé pendant toute la saison qu'il était un très très bon pilote. Mais là, il enchaîne les erreurs, le manque de rythme. On sait qu'il se plaint peut-être au niveau du freinage qui pourrait moins lui correspondre en ce moment. Donc en fait, il est dans un engrenage. Et là, c'est vrai que ça devient difficile de voir vraiment un sursaut pour lui. Donc ça va être très très dur à digérer la saison, parce qu'effectivement on est passé près d'un titre, donc ça fait mal. Et effectivement, si on va attendre l'année prochaine, si pour l'instant rien n'est joué, mais on sait très bien aussi que son manager Marc Aubert évidemment aussi est en discussion et bien commence sûr. Un peu à se renseigner. Moi, je serais pas surpris, effectivement, dans un an ou deux, Ferrari, Aston Martin, par exemple.
Tout à fait, puisque c'est pas lui faire offense non plus. On verra ce que Lewis fait à l'issue de la saison 2026. Bon, là aussi, bien sûr, quoi qu'il arrive, les bruits, non, il va rester. Bien sûr, il va tenter le coup. Il va espérer avoir une voiture qui lui permette de gagner et qui lui convienne. Mais à la fin de la saison 2026, il aura 42 ans. Est-ce qu'il restera? Bon,
le débat Ferrari aussi, ils vont vouloir lui signer.
Tout à fait, puisqu'il y a ces options réciproques, si j'ai bien compris, pour la reconduction et la poursuite du contrat. Un type comme Piastri chez Ferrari, et puis je pense qu'ils vont pas être les seuls. Qu'est-ce qui va se passer chez Mercedes aussi? Enfin, il y a tellement d'inconnus. On va pas se projeter là plus d'un an.
C'est excitant. Il y a beaucoup de choses.
Très excitant. L'arrivée de Cadillac. Bon, je les crois pas aux avant-postes, mais avec des moyens colossaux. Faut le rappeler, des moyens colossaux, hein, vraiment.
Non, mais de toute manière, Piastri peut être l'attraction du marché des transferts la saison prochaine.
C'est ça.
Ça va être toutes les rumeurs vont se cristalliser autour de lui. On va l'écouter, Oscar Piastri. Bref, j'ai envie de vous dire comme d'hab, mais après les courses, là, bien évidemment, on fait de la radio, on n'a pas l'image, mais je peux vous assurer que c'est vraiment pas le même Oscar Piastri quand tu le vois en zone d'interview maintenant par rapport à il y a 5, 6, 7, 8 Grands Prix.
Ça pétille,
on le sent
plus,
même au niveau...
ça pétille plus.
Ouais,
il a le regard vide.
Ouais, exactement. Tu le sens vraiment impacté. Oscar Piastri au micro de Canal+.
You know, I was clearly up the inside.
Ouais, j'étais clairement à l'intérieur du virage. Oui, j'ai bloqué les roues, mais bon, même quand j'étais quand même à l'intérieur, j'étais dans la ligne. Je peux. Voilà. La décision est ce qu'elle est. Je peux pas la changer, bien sûr. Mais bon, à part ça, ça n'a pas été l'après-midi le plus simple. Il y a beaucoup de choses à regarder pour nous ce week-end. Voilà, Oscar Piastri qui revient sur cette pénalité, Jean-Luc, qui l'a pris suite à un petit accrochage avec Antonelli, qui a poussé derrière Charles Leclerc à dehors.
Absolument. Alors j'allais y revenir parce que Charles y est revenu, lui, et il a dit qu'il n'en voulait pas du tout à Oscar. Et moi, ça a été mon sentiment aussi, honnêtement, on n'a pas eu le temps d'analyser en direct, mais Kimi, il a viré vraiment comme s'il n'y avait personne. Or, il avait, bon, alors toutes leurs règles, moi je m'en fous de leurs règles, je dis simplement que Kimi avait laissé un léger espace, Oscar a eu raison d'essayer d'y aller, bon, il a freiné, il s'est loupé, mais il aurait laissé un tout petit peu d'espace, il ne se touchait pas. Alors maintenant... Aussi, je ne vais pas charger Kimi, qui, encore une fois, n'a que 18 ans, est un rookie, etc., parce qu'il avait Charles à l'extérieur. Donc, de toute manière, ça ne passait pas. À 3, à cet endroit-là, ça ne passe pas. Chaque année, ils ont essayé d'y aller, mais à chaque fois, il y a un crash, il y a un accrochage. Moi, je voulais revenir d'un mot aussi sur son erreur en sprint, qui était plus significative, à mon sens, de ce que disait à l'instant Séraphin. C'est-à-dire que, et ce que tu disais aussi, bien sûr, Nico, il n'y est plus. Parce que là, il est troisième, hein, il roule. Il y a les vibreurs pleins d'eau, mais tout le monde le sait. Lando, apparemment, c'est lui qui projette de l'eau sur la piste et tout. Non, mais il fait une erreur de pilotage. Alors, il n'est pas seul derrière. Comme lui, il est dehors, ça perturbe évidemment Hülkenberg de mémoire, qui a pourtant beaucoup de métiers, et Colapinto. Ah, la surprise. Bon, on va s'empiler à l'extérieur, mais l'erreur, elle vient quand même d'Oscar. Et je pense que l'Oscar d'avant du Grand Prix de Monza ne faisait pas des erreurs comme ça.
Bah, il les accumule. Il les accumule de week-end en week-end. Et en plus, quand il les accumule pas, il y a des conditions de course et des scénarios qui sont contre lui. Il y a plein de petits signaux comme ça qui montrent que ça pourra pas le faire cette saison. Tiens, on parlait de l'incident. Tu parlais de Charles Leclerc. Jean-Luc, on va l'écouter, Charles Leclerc, sur cet accident à Mélan, Piastri, Antonelli et lui, et qui lui a coûté potentiellement un podium.
Éliminé.
Ouais.
Très clairement, je pense que Kimi voit qu'il y a Oscar qui fait un dépassement et il laisse pas du tout la place. Donc après, est-ce que c'est optimiste de Oscar? Peut-être, mais est-ce que ça aurait pu être évité par Kimi? Je pense. Donc juste ultra frustrant, parce que quand c'est comme ça, je peux rien faire. Donc ça fait mal, parce que quand on fait tout le boulot qu'on a fait pendant tout le week-end, on met tous ces efforts-là à la poubelle à cause d'une faute qui est pas de notre côté et on peut rien faire. Donc c'est décevant, mais bon, dans ces cas-là, il faut essayer d'oublier le plus rapidement possible et regarder de l'avant. Mais c'est sûr que c'est pas facile, surtout qu'on se bat pour le championnat constructeur qui va être maintenant extrêmement compliqué d'aller... pour la deuxième place au championnat constructeur qui va être très compliqué à aller chercher.
Ouais, un peu dépité, ouais. Hein, l'ami Charles Leclerc. Hein. pour eux, c'est dramatique, hein, Jean-Luc.
Oui, et puis il corrobore ce qu'on disait à l'instant, hein, c'est qu'effectivement, lui, il s'est bien écarté. Parce que c'est ça, les pilotes de grand talent et d'expérience. Hein, il en a évidemment beaucoup plus que les deux autres réunis. Charles, maintenant, en Formule 1, il est chez Ferrari depuis longtemps, il est établi, c'est une des références du plateau. Et vous avez vu, quand on revoit les images, il s'est bien mis à l'extérieur autant que possible en se disant,
ouvre le volant,
ça va tasser à l'intérieur. Il pouvait pas aller plus loin, lui, sinon après il se mettait en danger. Et malgré tout, évidemment, Tony vient le percuter puisqu'il est projeté comme une boule de billard par Piastri. Mais vous avez vu, il charge pas trop Oscar. Hein. Il dit, c'est un peu la responsabilité des deux. C'est-à-dire qu'effectivement, Kimi vire comme s'il y avait personne. Non, il y avait quelqu'un. Et ça, s'il avait serré totalement la corde, il y aurait eu personne. Mais lui aussi, il était à l'agonie. On comprend bien pourquoi. Hein. Il était freinage limite. Bon, c'est dommage. Voilà, c'est regrettable. C'est du gâchis. C'est du gâchis.
Ouais. Surtout après un week-end qui avait mal commencé pour eux. Ouais. Déjà en essai libre 1. Et qui petit à petit commençait à comprendre. Il termine 5e aussi, Charles Leclerc, de la course sprint. Ouais. Et puis finalement, il fait une très belle qualification quand même. Une 3e place. On ne s'y attendait pas vraiment chez Ferrari.
Non. Ah non. Pas lui non plus. Il a failli passer à la trappe en Q1, t'as vu. C'est passé au dernier moment.
C'était chaud. Ouais. Par exemple, Lewis Hamilton s'est fait avoir lui en Q2. Donc le week-end, ça allait de mieux en mieux. Et donc évidemment, il nous beaucoup de regrets parce qu'il partait à une bonne position. Il espérait peut-être accrocher en tout cas un podium. Donc ça s'envole pour eux. C'est le 3e week-end quand même avec 0 point cette saison, donc ça fait mal pour Ferrari. Et Charles Leclerc le dit aussi, il bascule à la 4e place quand du classement des constructeurs. Donc c'est douloureux aussi pour une équipe de passer 2e à 4e sur un week-end. Et Mercedes qui marque aussi beaucoup de points quand même.
C'est ce que j'allais dire, c'est
43 points. Ouais. Et donc qui remonte deuxième, donc évidemment c'est dur, et on peut en parler aussi, mais aussi très dur aussi pour Lewis évidemment, ce week-end, qui se fait d'abord percuter un petit peu par Carlos Sainz au départ, mais après malheureusement il y a cette aussi erreur de sa part, un manque de jugement tout au bout de la ligne droite dans la montée, il percute malheureusement Colapinto,
là c'est énorme, même sincèrement,
comme ça pour un
l'inverse
pour
on aurait compris que Colapinto vienne percuter Lewis. C'est pas qu'une erreur de jugement, c'est cruel hein, ce que je dis, mais c'est la vérité. C'est pas de la faute de Colapinto hein, en l'occurrence.
Avant, il faisait pas ce genre d'erreur en fait, Lewis Hamilton. On commence à avoir des petites comme ça, des petites erreurs, des doutes. Après, on sait qu'il y a un manque de confiance aussi avec sa monoplace, donc ça joue. Mais bon, là je suis pas pilote, mais
là c'est pas la monoplace.
À grosse ligne droite, on arrive très très vite. On sait que effectivement, on se décale ou alors on lâche le pied. Bon, en tout cas, un pilote comme Lewis Hamilton, c'est dur de voir une erreur comme ça. Donc c'est au week-end à oublier pour Ferrari.
Bien sûr. Puis il a le DRS, donc il arrive et il lui met 15 bornes. Bon, mais il le sait. Enfin bon, on va pas surtout pas l'accabler. Hein, il faut le dire parce que là aussi, il y a des fans et c'est normal avec Marion Bartoli. Bon, j'ai rattrapé le coup en lui disant que le seul autre pilote à ma connaissance qui, en partant des stands, était monté sur un podium, c'était Lewis en 2014. Donc,
c'est bien rattrapé.
Ça allait mieux.
Oui, parce que alors, si vous n'écoutez pas Bartoli Time, Marion Bartoli, pote avec Lewis Hamilton.
Oula, copine. Elle est fan.
Voilà, fan. Grosse fan. Donc, non, mais c'est clair que. Et d'ailleurs, le discours d'Hamilton à la fin de la course était pour le coup différent d'habitude, où on le voyait désabusé, des fois pas envie de répondre. Là, il disait quand même, je sais que je suis dans le dur. Il a même utilisé le mot cauchemar. Il a dit ça fait plusieurs semaines que c'est un cauchemar, mais on va se relever. J'y crois, je suis persuadé que c'est de bonnes expériences pour pouvoir bosser pour l'année prochaine. Donc voilà, il a mis des mots peut-être un peu plus concrets sur ce qu'il vivait, sur ce qu'il ressentait. Ça prouve aussi que c'est vraiment cata du coup pour Ferrari, parce que bon, pour qu'il fasse des sorties comme ça, Hamilton, c'est rare.
Ça m'a rappelé la Hongrie, hein. Rappelez-vous, c'était gênant totalement. Quand il dit il faut me remplacer, c'est moi qui vais pleurer
limite.
Ah là, il était dans la dépression totale. Là. Les vacances entre guillemets l'ont fait du bien. Il est revenu un peu gonflé, mais là il en est pas loin là. Il se dit bon, ça va plus quoi. Puis il est honnête. Il le sait. Il le sait qu'il commet des erreurs qu'il ne commettait pas. Voilà.
Du coup, on est parti sur la Scuderia pour parler de cet incident, mais il y en a un qui était un des acteurs majeurs de cet accident à 3, c'est Andrea Kimi Antonelli. On va parler de sa performance quand même, Séraphin, meilleur résultat de sa carrière. Pas facile pour lui de gérer tout ça, parce qu'il y avait des monstres derrière lui, il y avait des pilotes qui se disputaient le titre. Lui, il savait qu'il avait un gros coup peut-être à réaliser ce week-end-là, et il a été ultra solide, surtout qu'il a résisté à Max Verstappen dans les derniers tours de la course. On va l'écouter, Andrea Kimi Antonelli au micro Canal Plus.
You know, I was in a difficult position.
J'étais dans une position difficile parce que j'avais deux voitures à côté de moi et j'ai fait de mon mieux. Oscar a bouclé ses roues, il m'a touché et malheureusement j'ai touché Charles. J'étais chanceux de m'en sortir. Je sais pas ce que j'aurais pu faire de plus. Ça a été très difficile cette course. J'ai eu des difficultés avec la dégradation des pneus arrière. Max avait des pneus plus frais, beaucoup plus de rythme. J'ai eu la chance de pouvoir tenir et garder ma deuxième place. Séraphin, ce week-end d'Antonelli, on le disait, il fait une saison de rookie, hein, Kimi Antonelli. On a pu apercevoir son talent à plein de moments. Il y a eu des moments plus difficiles, des hauts, des bas. Mais c'est sur cette fin de saison-là qu'il signe son meilleur résultat en Formule 1. Ça prouve qu'il progresse, non ?
On peut le souligner, c'est son meilleur week-end ce au Brésil. Ça fait 6 fois qu'il est dans les points. Effectivement, tu l'as dit, il y a eu quand même des périodes effectivement de creux. On sait qu'après Monza, psychologiquement, il avait dit.
Et après Imola, tu te rappelles,
Imola aussi. Donc il y a eu des périodes compliquées. Là, ça fait 6 fois qu'il marque des points. Et oui, effectivement, en fait, quand on regarde sur le week-end, il est deuxième partout. C'est-à-dire qu'il fait deuxième en qualification, en course sur le samedi et le dimanche. Il est quand même aussi devant George Russell tout le week-end. Et ça, c'est quand même assez significatif. Oui. Alors que George Russell est quand même cette année la référence. Il a une régularité sur les week-ends de course. Là, il était toujours devant son coéquipier. Donc, il a aussi quelque chose sur ce circuit peut-être qui vraiment le met en tout cas dans une bonne phase. Et c'est quand même aussi cet accrochage, on en a parlé. Moi d'ailleurs, je suis surpris que sa monoplace n'ait pas été endommagée quand même. Hein,
Alors apparemment, il a souffert un petit peu, disait-il. Bah oui, du côté où ça a tapé,
sur les côtés,
peu le fond plat. Mais c'est pour ça qu'il a eu du mal sur
il arrive à tenir un rythme.
Ah, ouais.
Et puis il partait aussi en pneu tendre. Et j'ai vu, il fait quand même 21 tours aussi en pneu tendre. Il amène très très loin.
C'est remarquable.
Et donc il a très très bien déroulé le week-end. Donc on peut effectivement tirer son chapeau. Il reste quand même, quand on regarde nos classements, il marque moins de points quand même que George Russell parce que il est très très régulier. Mais ça fait plaisir. C'est son deuxième podium pour un rookie, aussi dans une très bonne monoplace. Mais c'est vrai que ce week-end, on l'a vu battre son coéquipier comme ça. On s'y attendait pas en fait. Avant le week-end, c'était difficile de voir un Andrea Kimi Antonelli. On rappelle aussi, hein, il roule jamais sur ce circuit, hein, en F2, en Formule 2 promotion, on roule pas. Donc non, très très bien, à l'aise. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là en tout cas.
Ouais, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est seulement la troisième fois qu'il devançait Russell en qualif, donc sur 21 Grands Prix.
C'est ça.
Hein. Et donc là, au total du week-end, avec ces deux très belles places de deuxième, il marque 25 points au total. Russell n'en marque que 18. Et là aussi, il faudrait se reporter. C'est pas souvent, je suis en train de regarder même le Canada, voyons.
Le Canada, alors, il gagne Russell. Donc,
c'est ça. Voilà. Donc il est encore derrière. Donc au total de points sur un week-end, on regardera, c'est pas compliqué, mais je pense que là aussi, non, il a franchi un pas. Hein. Là, franchement, je suis bien d'accord pour dire, il a eu. il l'a avoué aussi, un passage à vide. Là, il a bien mûri. Là c'est remarquable hein, ce qu'il a fait. Bon, à part cette petite erreur, on va dire, enfin, petite erreur, on ne va pas l'impacter l'accabler, trop non. méchamment, l'accabler, non. Il est en partie responsable, en petite partie. Puis, comme tu le dis, il a continué à rouler avec une voiture endommagée et en tenant la dragée haute, bah, à rien moins que Max sur deux tours. Bah, rien que pour ça, bravo.
Ouais, parce que franchement, ouais. quand on voyait la remontée de Verstappen, on était persuadé qu'il allait terminer deuxième.
Moi, je pensais qu'il allait le bouffer. Hein. Franchement,
moi aussi, je pensais qu'il allait. Jusqu'à, franchement, jusqu'aux 200 derniers mètres, je me suis dit, bon, ils veulent sauter. Il va le faire.
Il n'a pas craqué, en fait. Il a pu faire une erreur. On sait que c'est sous pression dans ce genre de situation.
Absolument.
Il n'a pas craqué.
Ouais. Non.
Ouais. Et puis les gars, on en a parlé comptablement, mais énorme perf de Mercedes, Jean-Luc, au classement des constructeurs. Hein.
On sait
que cette deuxième place, on connaît tous les enjeux financiers, on le rabâche à chaque fois dans le paddock RMC, mais là, Mercedes, au classement des constructeurs, c'est un énorme pas en avant. Hein.
C'est une magnifique option, d'ailleurs, le sourire de Toto Wolff le confirmer en attesté. Ben oui, on sait que l'argent, il est là. Hein. L'argent pour les écuries, et c'est la position au championnat constructeur. Alors, les titres pilotes, c'est les plus prestigieux dont on parle. Là, bon, de toute façon, ils savent que c'est fini. En revanche, arracher la deuxième place, et puis là, ils ont fait un pas en avant considérable. Tu l'as rappelé, Nico, tout à l'heure, 398 points, 366 pour Red Bull et 362 pour Ferrari. Bah, c'est pareil, c'est un bon pas en avant sur la deuxième place. Hein. Faudrait vraiment qu'eux aussi aient des catastrophes absolues à la Ferrari, j'allais dire, pour qu'ils la perdent maintenant, cette deuxième place. Ouais. Ils ont pris une très belle option.
Ouais, c'est clair. Les gars, on a retrouvé Isaac Hadjar aussi sur ce week-end. Alors, on l'avait pas perdu, Isaac Hadjar, hein, bien évidemment, mais c'est vrai qu'il était rentré un petit peu dans le rang. Il comprenait un peu moins sa voiture sur les dernières courses. Petit problème de rythme. Et Hadjar, Serafin, a fait un super week-end, notamment une séance de qualif. Bah comme on a pu le voir en faire, franchement, cette saison, cinquième, son coéquipier a bien roulé également, hein, Liam Lawson, puisqu'il a terminé septième. Ça prouve que la Racing Bulls était vraiment performante sur ses qualifications. Mais voilà, Hadjar, alors qu'on a toujours cette interrogation de la line-up Red Bull, on attend l'officialisation de la communication, on en a beaucoup parlé dans le warm-up de ce Grand Prix du Brésil qui est bien évidemment toujours dispo, si vous ne l'avez pas écouté, il a montré à tout le monde qu'il était là, quoi.
Et oui, pour moi, je l'englobe aussi avec vraiment l'équipe. C'est-à-dire que parfois, on a vu Isaac Hadjar être meilleur sur cette saison. Là, c'est vraiment pour moi les deux pilotes qui ont été très bons avec leur Racing Bull, qui correspondaient plutôt bien à ce circuit. Donc oui, Isaac Hadjar, il part cinquième. C'est sa deuxième meilleure position sur une grille de départ. Mais quand même aussi Liam Lawson qui partait septième et qui lui aussi a fait une stratégie audacieuse hein, puisqu'il a fait 15 seul arrêt.
Absolument.
Et on l'a vu à la fin avec ce gros bouchon sur la fin. Et d'ailleurs, Isaac... il était bloqué aussi, mais oui, ça fait du bien parce que ça faisait quelques courses quand même qu'il n'y avait pas de points pour Isaac Hadjar. Il y avait cette erreur il y a deux grands prix à Austin, donc ça fait du bien. On l'a vu aussi pas mal se batailler avec Pierre Gasly hein, pas mal pendant la course.
Ils ont passé presque toute la course ensemble, hein.
Exactement. Ouais. En fait, c'était Pierre Gasly qui doublait Isaac Hadjar sur la longue ligne droite, et après lui il avait le DRS et
il le reprenait dans la deuxième ligne droite. Exactement. Après les S de Sénat,
donc ça fait plaisir, mais aussi, oui, il y a Almosson qui, je trouve aussi, qui est sur une bonne période là en ce moment et qui score hein. D'ailleurs, en termes de points, tu le diras Nico, mais je crois qu'ils sont assez proches finalement. Isaac Hadjar est toujours dixième, mais Yelmoson
Hadjar 43, Lawson 36.
Voilà.
Lawson revient,
ça revient quand même. C'est important de le souligner, mais ouais, cette monoplace qui correspondait en fait aux caractéristiques de ce tracé, et donc effectivement ça... Il renoue quelques regrets évidemment hein, parce qu'il a été bloqué par Liam Lawson qui termine 7e aussi, qui termine 7e mais qui partait à la 7e place. Lui termine 8e, mais c'est vrai qu'il y a aussi Berman, on va en parler parce qu'il fait encore une fois une très belle course et il termine devant lui. Donc oui, ça fait plaisir. Il faut encore maintenant, je pense, continuer sur d'autres grands prix. Voilà, il reste 3 grands prix.
Et puis si tu veux, mon Nico, pareil, je pense qu'il faut dédramatiser cette histoire. Je sais que dès qu'on parle d'Isaac, ça prend des proportions terribles en France. Donc, je prends mes précautions oratoires. non, mais quand on aime bien, comme on dit, on châtie bien. Donc quand c'est bien, là, il fait des qualifs superbes. Là, il n'y a rien à dire. Cinquième en qualif, moi aussi, ça m'a vraiment impressionné. Sur un tracé qu'il ne connaissait pas, pareil, un tracé délicat, un tracé piégeux, dans une ambiance délicate. Bon, ah, effectivement, comme vient de le souligner Séraphin, juste titre, c'est la monoplace qui était très efficace et l'équipe qui a bien travaillé. Mais il faut quand même les pilotes pour faire le résultat. Donc il se qualifie magnifiquement devant Lawson. Et grâce à cette stratégie, alors terriblement audacieuse, hein, parce qu'il change au 20e tour, il fait plus de 50 tours,
énorme.
C'est énorme avec ses médiums. Donc ça veut dire que Lawson, qui, je le répète, s'est retrouvé dans le baquet au 3e Grand Prix, il n'avait jamais essayé cette monoplace. Hein. Et puis il était totalement cramé lui aussi, moralement, mentalement. Il était bon, pour ça qu'il n'existait pas. Donc c'est très bien l'émulation entre équipiers. On ne sait pas qui restera, qui ne restera pas dans la nébuleuse Red Bull. Mais je pense que si Isaac restait chez Racing Bull, ce serait pas grave. La preuve, parce que c'est encore un rookie, c'est sa première année et c'est normal, il a beaucoup à apprendre. Est-ce que c'est pas l'exposer, le cramer peut-être, que de le mettre à côté de l'ogre Verstappen, où là aussi, il va être peut-être à un moment perdu lui aussi, il va être un peu comme Tsunoda, il va pas comprendre qu'est-ce qui se passe, comment il me colle tout ça. Donc je sais pas. Bon, après, évidemment, la décision appartiendra à Red Bull. Alors, on a cru comprendre que, oui, il y a Lindblad hein, qui est toujours, toujours sur la porte et qui sonne, effectivement, et qui a fait donc une première séance et qui a apparemment impressionné tout le monde. Et nous, on n'a pas... Toujours pareil, pour juger de l'extérieur, on n'a pas tous les éléments. On n'a pas exactement comment ils travaillent, quelle charge en carburant déjà, quelle cartographie moteur, quel type de pneu, quelle consigne il a. Enfin bon, voilà. Donc on peut tirer des conclusions, on est là pour ça. Et puis on aime ça. Mais je veux dire, on peut avoir des opinions, mais elles ne sont pas totalement fondées comme le sont celles d'une équipe. Voilà, c'est ça que je veux
dire. Bien sûr, ça c'est une certitude. On n'a pas toutes les infos, on ne vit pas en interne, on ne connaît pas non plus toutes les tractations qu'il peut y avoir au niveau... financier, ça peut conditionner énormément de choses, on le sait en Formule 1.
Honda donc, apparemment défend beaucoup Tsunoda aussi. Hein.
Exactement,
oui,
voilà,
toujours.
Donc c'est pour ça qu'il y a aussi de la politique, beaucoup, dans le choix d'un pilote.
C'est de la Formule 1.
mais Isaac Hadjar s'est montré, et ça c'est toujours bon signe.
Oui.
Lui veut aller chez Red Bull, hein, il l'a dit, enfin ça n'est pas caché, s'il a cette chance-là, il la saisira bien évidemment. On va l'écouter au micro de Canal. Alors autant nous, on se dit qu'il a fait un bon week-end, mais lui, on le connaît, Isaac Hadjar. Pas content, il partait 5e, hein, donc terminé 8, ça lui va pas.
Bah, c'est pas une bonne course, de toute façon. On part 5, on finit 8. Je suis pas content, on a dormi sur le premier relais. On s'est laissé undercut et après, bon, on essaye de faire notre course. C'était amusant en tout cas, c'est sûr, mais c'est pas la position que je voulais finir. Non, je suis quand même content du week-end, on a retrouvé un bon rythme, c'est le plus important. On sait pourquoi et donc je suis confiant pour les trois dernières courses.
Voilà Isaac Hadjar. Moi, ce que j'adore avec lui, en tout cas, c'est qu'il se cache jamais. Tu vois, il aurait pu faire un peu de politique en disant ouais, 8, on prend des gros points. Ça faisait non.
Il a raison, bien sûr. Puis ça fait du bien, un peu de spontanéité, un peu de fraîcheur dans ce monde si polissé, parfois.
Oui.
Non, c'est son vrai. Caractère aussi. C'est ce qui semble aussi plaire finalement aussi un peu à Red Bull. Hein, c'est sa façon d'être un pilote et d'aller chercher à chaque fois le meilleur de lui-même, se surpasser. Donc c'est aussi ce qu'il veut.
C'est bien pour un pilote quand il dit je suis parti 5, je finis 8, je peux pas être content. Bon, bah,
il a
normal.
Raison. Il finit derrière. Ça grittait pas.
En plus derrière son équipier.
Et aussi Racing Bull, j'ai noté qu'il consolide aussi sa 6e place au classement des constructeurs.
Oui.
Et c'est aussi un signal positif pour.
Très important. Ouais.
Totalement. Et Isaac Hadjar 43 points, Liam Lawson 36 points, Yuki Tsunoda 28 points. Yuki Tsunoda qui a encore galéré ce week-end.
Et lui, c'est pas Max. Hein.
Lui, c'est pas Max.
Il y a des erreurs de lui et visiblement aussi des erreurs de son
oui.
équipe.
Hein, puisque effectivement, la monoplace était inconduisible, mais c'est là qu'on voit la différence entre, encore une fois, ce talent étincelant, ce pilote qui est le meilleur de la grille, et Yuki qui n'est pas mauvais, encore une fois. Mais justement, c'est pour ça que j'insistais, et je reviens sur ce que je disais il y a un instant. Est-ce que Isaac, avec une monoplace inconduisible comme ça, aurait fait beaucoup mieux que, c'est pas très important, que Yuki. Mais c'est un piège, tu comprends? C'est ça que je veux dire.
Ouais,
c'est
ouais,
un
piège.
Alors que, c'est pas le pilotage.
Voilà. Donc, bon, c'est, enfin, ça, la décision ne nous appartient pas. Mais je crois que s'il restait chez Racing Bull, on le dit avant, ce serait pas ni une humiliation, ni un désaveu, ni rien. C'est pas mal, hein, pour une deuxième année, une bonne équipe comme ça, qui peut terminer sixième au championnat, qui connaîtra à fond, avec un nouveau règlement. Moi, je, sincèrement, on lui laisserait, ou je serais son manager. Je suis pas sûr que je lui dirais d'aller chez Red Bull. Oui, mais franchement,
il pourrait s'inscrire aussi pilote en fait numéro 1 de cette équipe.
Exactement.
Comme Pierre Gasly il y a quelques
exactement.
Années.
La référence, et si, surtout si on lui met un Alain Blaz à côté, donc ce sera lui la référence. Ouais. Ouais. Ça se discute.
Tiens, on parlait de Tsunoda, et vous savez qui est à 6 points de Tsunoda au championnat du monde?
À 6 points?
À seulement à 6 petits points derrière Yuki Tsunoda.
Eh ben écoute, Pierre Gasly.
Eh ben c'est Pierre Gasly, bien évidemment.
Je viens de regarder.
Je me disais bien. Mais moi je aussi, me suis dit, là, voilà, je me suis dit, là, il est en train de me filouter, celui-là, parce qu'avec le temps qu'il met, il est dans les fiches. Pierre Gasly à 22 points. Pierre Gasly a enfin marqué un point. Ça faisait longtemps qu'il l'attendait. Et bien évidemment, au micro de Canal, bah, il y avait un peu plus de sourire sur le visage de Gasly.
Ça fait 4 mois qu'on n'a pas marqué de points. Donc oui, c'est sûr que je suis content. On arrive à se bagarrer avec des voitures qui sont quand même très performantes depuis tout au long de l'année. Après, ouais, la course, bah, j'ai tenté. Deux fois, je passe devant Isaac au premier virage, mais après, dans la ligne droite, avant le virage 4, il nous passe à chaque fois rapidement, assez facilement. Et bah, c'est positif d'être dans les points.
Voilà, Pierre Gasly qui, Jean-Luc, à chaque fois qu'il a une micro-opportunité de glisser le museau de son Alpine en Q3 ou dans les points, bah, il arrive à saisir l'occasion. Et ça, c'est fort hein, quand on voit la perf de la voiture.
Ben oui, puis je vais le rappeler, c'est un vainqueur de Grand Prix à Monza. Totalement. C'est quand même pas rien. Non, mais ça fait plaisir, oui, comme tu dis. Bon, là, il est en train de boire le calice jusqu'à l'Ali, en un mot, en commençant par un H. Ouais. Donc, c'est terrible. Non, mais et là, ça lui met un peu de baume au cœur, quoi. Effectivement, il prend 2 points sur l'ensemble du week-end parce qu'il réussit à en prendre un en sprint race également. Bah, pour lui, c'est formidable, évidemment. Le pauvre, il peut pas espérer mieux. Et c'est vraiment à titre personnel. Hein, je vais pas lui faire l'insulte non plus de le comparer à Colapinto, même si il fallait le dire et nous l'avons dit lors des derniers Grands Prix. Colapinto s'était montré plutôt performant au niveau de Pierre d'ailleurs, hein, ce qui pouvait poser question. Non, là, Pierre, là, super. Il a retrouvé le Lagnac, un circuit bah, qu'il aime bien, où il a eu des très beaux souvenirs de l'an dernier, ne serait-ce que de l'an dernier. Et ouais. De podium, absolument. Donc non, bah, écoute, ça fait plaisir, voilà. Ça fait très plaisir.
Et c'est vrai qu'on a, c'est vrai que bon, là, on s'est penché sur l'analyse un peu des courses, mais on n'a pas parlé, c'est à la fin de cette arrivée, où entre Liam Lawson, là, qui est 7e, oui. Et Pierre Ocon, qui est 12e, oui. t'as combien? T'as 6 pilotes qui se tiennent en 2 secondes.
Exactement.
C'est folie, ça, cette arrivée.
Et Isaac Hadjar aussi, qui termine 8e, je ne sais pas si vous avez vu, il termine à 2 dixièmes à peu près.
2 dixièmes,
de Liam Lawson. Ouais. Donc ça s'est joué sur la ligne dernier moment. Donc oui, c'est sûr mais il s'est trouvé, Pierre Gasly, il se retrouvait aussi dans ce train finalement de voitures qui se suivaient. Et oui, il fait une Q3 et ça fait plaisir de voir l'Alpine en qualification à ce niveau-là. Après, quand on remet en contexte toute la saison, c'est voilà, c'est une note positive dans une saison qui est compliquée pour Pierre. Donc, c'est sûr que lui est content, l'équipe aussi. Cette voiture aussi semblait plutôt sur un bon rythme, surtout le week-end. Et Jean-Luc l'a dit, il marque aussi un point. 8e quand même sur une sprint, c'est quand même pas mal pour l'Alpine. Hein. On rappelle qu'en sprint, on marque des points à partir de la 8e place et non de la 10e place. Donc, il faut aller la chercher quand même. Et donc oui, sur le rythme global, il a semblé être présent. Et il se retrouve effectivement dans le train de voiture. Il s'est bataillé un peu avec Isaac aussi, il l'a dit encore une fois, on en a parlé tout à l'heure.
Ils sont bien abusés, je crois, tous les deux. Bon, c'est comme ça, hein. un coup à toi, un coup à moi.
C'est ça, c'est très propre, mais il y a eu de la belle bataille quand même.
Oui.
Ils sont allés bien, donc ouais, ça fait plaisir. Après, ouais. Quand on remet en contexte toute la saison, c'est sûr que c'est quand même pas glorieux. D'ailleurs, moi j'ai trouvé un petit peu, un peu de retenue comme dans ses paroles, parce qu'on lui a dit, bon c'est bien, mais j'ai l'impression qu'il en voulait peut-être l'école pas au moment, peut-être pour son équipe sur ses arrêts. Je sais pas, mais sorti quand même que voilà, il voulait pas trop dire ce qu'il pensait.
Je pense qu'il est dans la retenue depuis quasiment un an qu'il est dans la retenue.
Sinon, je dirais, j'ai une poubelle, je roule.
Il est corporate, comme on dit.
Ouais, c'est ce qu'on dit.
Il est corporate. Il, voilà, il y a demi-mot. Mo, il sait très bien que sa voiture, elle est bonne dernière.
Et puis elle a aucune évolution, surtout. Alors là, zéro. Hein.
Ouais. Bon, ça fait un petit moment qu'on
oui, sait, ça fait un petit moment. Ouais.
Même Flavio l'a dit. Mais oui, ça faisait depuis Spa, je crois, qu'il n'avait pas marqué de points.
Ah oui, oui, oui.
Donc
oui,
ça faisait 3-4 mois. Donc oui, ça fait du bien. C'est une petite note positive dans cette saison. Alpine reste bon dernier, voilà, 22 points.
Et restera
points.
Dernier, parce
et Sauber, qui est deuxième, a quand même encore beaucoup de points, donc ils n'iront pas chercher une meilleure
place. Compte, il y a 40 points d'écart, hein, Sauber, 62 points, et Alpine 22. C'est un gouffre, quoi. Là, c'est vraiment...
Bah, les trois pilotes Alpine sont aux quatre dernières places du championnat du monde pilote, et Gasly devance uniquement Bortoleto. Ouais, c'est vrai que je vous ai pas donné le classement de la course sprint, parce qu'on parlait du point de Gasly lors du Grand Prix et du point de Gasly lors de la Sprint Race. Hamilton et Leclerc ont marqué des points sur ces Sprint Race. Fernando Alonso aussi, tiens, il a pris 3 points sur la course Sprint. Voilà, moi quand même, par contre, les gars, moi, grosse frustration hier sur la fin de course, avec la Formule 1 qui nous met cette bagarre là entre 7 et 12 dans une toute petite fenêtre, parce qu'on suivait la remontée extraordinaire de Verstappen. En fait, il y a eu des bagarres dans tous les sens sur cette fin de course, on n'a pas tout pu suivre, et c'est vrai que ça, c'était à quand des grandes fenêtres là où tu me divises l'écran en quatre, Jean-Luc, et on peut voir toutes les bagarres. Mais ça,
écoute, il y a là, je vais évoquer un temps. Vous n'étiez pas né. Là, je sais que vous n'étiez pas né. Je vais rigoler. Je dis ça d'abord parce que effectivement, quand Bernie a créé la télévision numérique, comme vous le savez, j'ai eu la chance, le bonheur, le plaisir d'y travailler dès le début pour Canal à l'époque, pour Kiosque.
Ouais.
Et donc, on avait des réunions avant et après chaque Grand Prix auxquelles Bernie participait. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur, parce que il reconnaissait justement en matière de télé, malgré toute son expérience dans tous les domaines, qu'il n'était pas forcément un spécialiste de la télévision. Il écoutait lors de ces briefings tout ce qu'on pouvait dire et c'était extrêmement enrichissant, parce qu'il se rappelait, il se souvenait 3 Grands Prix après. Alors vous aviez dit là qu'il fallait déplacer la caméra de 10 mètres pour ouvrir l'angle, etc. Non, c'est un type brillantissime. Alors c'est pas pour parler de Bernie, mais c'est pour dire que au niveau de la réalisation, on avait des débats aussi, son patron télévision à l'époque à la FOM s'appelait Mladen Djergovic. C'était un journaliste yougoslave de grand talent, un type formidable, et donc on avait ce type de débat, Nico. Tu vois, je reviens à ton sujet initial, après cette longue digression, vous me la pardonnerez.
Mais non, mais on adore les anecdotes. Bon, c'est génial.
Ben oui, parce que la télévision d'aujourd'hui, c'est le résultat de ça. C'était quand même l'ouverture au numérique. On avait 7 canaux au début. On diffusait 7 canaux aux abonnés de Kiosque. Et je suis persuadé que dans ceux qui nous font l'amitié et le plaisir d'écouter le podcast, d'écouter le paddock, il y en a qui se rappellent très bien de Kiosque avec Patrick Tambay, que je ne peux pas ne pas évoquer. Et donc... À l'époque, eh bien, on travaillait cette réalisation-là. On montrait moins les copines des pilotes. Je le fais exprès parce qu'il y avait on les a vues. C'est vrai qu'on les voit peut-être un petit peu moins. Et elles sont adorables, elles sont charmantes, elles sont magnifiques. Mais je suis assez d'accord aussi. Le people, ça va à un moment, quoi. Là, comme tu le dis, Nico, faut pas rater les actions.
On est
là.
C'est le moment.
Mais voilà, si on est là pour vivre du sport. Alors, ils nous les montrent avant, ils nous les montrent après. On est tout à fait d'accord. Mais quand il y a de l'action comme ça sur la piste, et tu as raison, ben, il faut la privilégié. Alors bon, c'est vrai qu'encore une fois, la remontée de Max et surtout la capacité qu'il pouvait avoir à s'emparer de la deuxième place a maintenu tout le monde en suspense. C'était haletant, quoi, vraiment. Hein.
Ouais, clairement. Juste un petit mot, Serafin, sur Berman, pour conclure ce débrief de ce Grand Prix de San Paolo. Berman qui est ultra performant sur cette fin de saison. Franchement, je cherchais mes mots, mais en plus, il a plein de scénarios de course ou de petits faits de course qui vont dans son sens. Il arrive à saisir la moindre opportunité, je le disais tout à l'heure pour Gasly, mais alors lui, c'est encore plus fort parce que c'est pour marquer de gros points. Il arrive à hisser sa as à la sixième place. C'est vraiment... nous, on a le comparatif avec Esteban Ocon et ça nous fait un petit peu mal parce que sur cette fin de saison, le différentiel entre les deux pilotes, il est fort. Il est en train un peu d'éclabousser quand même. Hein.
Ouais, t'as raison, j'allais en parler également, mais c'est sûr que là, ça commence effectivement à se voir en fait entre les deux pilotes. Esteban, on sent qu'il n'arrive pas à extraire quelque chose de cette monoplace. On sait aussi quand même que la Haas, c'est pas une voiture qui est performante sur toute la saison, mais Berman, c'est vraiment un coup de cœur de cette fin de saison finalement. Ah oui. Il fait un très bon week-end juste avant en Mexique et là il enchaîne en partant 8e, il termine 6e, donc il va chercher des gros points, donc ça fait plaisir. C'est la 4e fois d'ailleurs qu'il est dans les points consécutivement, donc ça montre aussi son niveau en ce moment. Et oui, encore une fois, il a été très bon, il a dominé son coéquipier. On parle effectivement de tout à l'heure aussi de situation, je sais pas si en termes de réglage en fait, je sais pas, c'est là où on est observateur, on n'a pas tous les éléments, mais est-ce que entre la voiture d'Esteban et la voiture de Oliver Berman, est-ce que les réglages de la voiture seraient assez différents? Et je sais pas comment il règle la voiture, mais on sent que il arrive à chercher en tout cas ce que Esteban n'arrive pas lui à
tout à fait, surtout en qualif, hein, et on le sait en F1, si on part loin derrière.
Ouais, surtout récemment, ces dernières années, c'est extrêmement important. Ouais. Donc Esteban, lui, qui partait de la voie des stands, parce que du coup, il a changé aussi beaucoup d'éléments. Il termine 12e, donc il remonte quand même quelques places. Mais c'est sûr que ça fait la différence avec Oliver Berman qui part aussi haut. Et ouais, c'est vrai que j'étais justement, il y avait cette bataille, tu l'as dit, en fin de course. Moi, la petite astuce, c'est que je regarde sur la F1 TV aussi. Donc, on peut choisir sa propre caméra.
Oui. C'est ça.
Donc,
absolument.
Je suivais la fin de course, justement, cette remontée. Adjar qui bloquait sur Lawson, Berman aussi qui était lui devant. Donc, on pouvait suivre, mais je suis d'accord, à la fin, il y a vraiment beaucoup de batailles à suivre. C'était assez intéressant.
Il fallait être partout. Ouais. Juste un mot, mon Nico, comme tu m'as dit qu'on arrivait à la fin, déjà, on n'a pas vu passer le Grand Prix de São Paulo. Un mot sur Ayrton. Pourquoi? Parce que je vais vous parler de Morumbi, le cimetière de Morumbi, qui est juste à pas très loin, hein, qui est pas très loin du tracé. C'était un pôliste et il le revendiquait tout le temps, Ayrton. Et surtout, si vous allez là-bas, ne manquez pas d'aller rendre un hommage à Ayrton. C'est très émouvant parce que c'est un cimetière très simple. Hein. Sa tombe est au milieu d'un grand espace vert de gazon. Il y a un arbre pas très loin. C'est très simple, c'est très émouvant, vraiment. Et à chaque fois que, évidemment, enfin, je pense souvent à lui, mais à chaque fois qu'on vient à São Paulo et au Grand Prix du Brésil, le Grand Prix d'Interlagos, on peut aussi, bon, je veux pas faire ne parler que de nécro, mais c'est le circuit José Carlos Pache, qui était un pilote brésilien de talent, qui s'est tué en avion, lui, en 73. Bref, voilà, juste une petite page, mon Nico, tu me la pardonneras à propos d'Ayrton. Voilà. Qu'il avait emporté enfin en 91, vous vous rappelez aussi dans quelles conditions, hein, avec une McLaren sur ce tracé, alors qu'il avait la boîte qui était cassée, il n'avait plus que le 6e rapport et il tremblait, je crois que c'était Patrese qui était derrière, qui remontait comme une balle, et Ayrton n'était jamais parvenu à s'imposer devant les siens au Brésil, et son émotion, et surtout il avait les crampes partout, il ne pouvait pas sortir de sa monoplace en 91, c'est une image, on la trouve partout, hein, qui est terriblement émouvante, voilà.
Tu sais quoi, mon Jean-Luc, j'adore débriefer les courses, mais quand tu nous rappelles ces moments-là d'histoire, c'est franchement les meilleurs moments du paddock RMC. D'ailleurs faire des hors-série, tiens, avec des anecdotes, les grandes courses, ça serait une super idée.
Je vais rajouter une chose, hein, après tout, ça fera 2 minutes de plus, mais Ayrton, parce que c'était un privilège, j'ai jamais compté, comme le nombre de grands prix auxquels j'ai participé ou j'ai commenté, j'ai jamais compté, c'est pas important, mais j'ai dû l'interviewer une bonne quinzaine de fois, mais comme on dit, face to face aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et là, si je commence là, ça va prendre du temps. Donc j'ai 2-3 interviews avec lui particulières et je vous le raconterai un jour.
Tiens, super podcast, hein, avec Jean-Luc d'ailleurs et Nicolas Jamin, Panthéon, spécial Ayrton Senna, voilà, il y a plein de choses également si vous voulez écouter les anecdotes de Jean-Luc sur Ayrton, il y en a plein dans ce super podcast. Les gars, merci beaucoup.
C'était un plaisir.
Super débrief de ce Grand Prix du Brésil. C'est toujours un moment exceptionnel dans la saison. On se retrouve la semaine prochaine pour Las Vegas.
Et oui, ça va être différent là, l'ambiance.
C'est ce que j'allais dire. On change d'ambiance à Las Vegas. C'est pas la même. Ciao les gars, et merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas les petites notes et n'oubliez pas de nous envoyer tous vos commentaires après cet épisode. Bye bye.
Ciao.
Le paddock RMC.